RMC.
GG 7 et match.
Voilà, faut pas GG7 et match. La CGT a déposé des préavis de grève dans les trois branches de la fonction publique. Ça va du 15 avril au 15 septembre. Et ça va couvrir donc la période des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques. Pas de trêve olympique, c'est ce que dit la CGT. Et qui a prévenu, on veut des recrutements pérennes, nous voulons des compensations salariales au titre des contraintes professionnelles générées par les Jeux. Ils rejoignent ainsi le deuxième syndicat de la fonction publique, Force Ouvrière. Et vous avez remarqué que ça intervient au moment où le ministre de la fonction publique, Monsieur Stanislas Guérini, réfléchit à la suppression du statut d'emploi à vie et parle davantage de licenciement des fonctionnaires. 5 mois de préavis, est-ce que pour vous c'est scandaleux? Oui pour Mehdi, non pour Barbara et Frédéric. 32-16 pour en discuter avec les GG. Monsieur Mehdi Guézard, c'est vous qui avez les 60 secondes, c'est parti.
Est-ce qu'une personne autour de la table est surpris de ce préavis de grève? Ben non, on l'avait dit il y a 6 mois, je crois, toi et moi, Alain, comme quoi il y allait avoir ça. Mais bon, après, voilà.
Il y a 15 jours.
Oui, il y a 15 jours, il y a 6 mois, il y a 3 mois, il y a 2 mois, il y a 2 heures. Mais c'est pas grave. On a l'habitude de toute façon avec ces syndicats. Moi, ce qui me surprend, c'est les demandes qu'ils font. Alors, ils demandent quand même, alors qu'il n'y a que 2 jours hein, que le Sénat a voté l'encadrement des manifestations lors des grands événements, ils demandent des droits au congé, du télétravail, des compensations salariales au titre des contraintes professionnelles générées par les Jeux. Donc ça va durer 1 mois, ils veulent ce sont des fonctionnaires qui ont pas mal d'avantages, mais en plus, parce que c'est les Jeux Olympiques, donc une fois par 100 ans, une fois par siècle, ils ont besoin d'argent en plus, et ils te mettent. Alors, je sais que Barbara va crier parce que je vais dire ce mot-là, mais ils te prennent en otage, je te le dis, les Jeux. Voilà, ça y est, elle commence à crier, Barbara. Ils prennent en otage les Jeux Olympiques, l'organisation des Jeux Olympiques, parce que ils mettent le couteau sous la gorge, si tu préfères, Barbara. Voilà, ils mettent le couteau sous la gorge parce qu'ils se disent, on est en position de force. Alors, je suis désolé, mais tu sais, la fonction publique, pour moi, il y en a qui méritent beaucoup plus, c'est le système hospitalier où les infirmières, les médecins ont ce droit-là. Mais à un moment, les agents territoriaux, il y a des choses que je ne comprends pas, quoi. Avec pas mal d'avantages qu'ils ont, si en plus ils te mettent le couteau sous la gorge parce qu'il y a les Jeux Olympiques, parce qu'ils se sentent en position de force, je trouve ça, un, dégueulasse, et deux, franchement, petit.
Voilà. Alors, on y va, on répond. Fred.
Bon. Alors je sais que le fonctionnaire bashing, c'est un truc qui marche bien.
Non, c'est pas du fonctionnaire bashing.
Il répond.
Bon.
Il y a une réalité.
Non. La réalité, c'est que les Jeux Olympiques vont demander à des tas de personnels une mobilisation sans précédent pour que cette chose existe dans des conditions qui deviennent de plus en plus détestables. La CGT, comment dire, ne prend personne en traître. Elle avait prévenu, même s'il y avait des négociations, qu'elle demandait, et c'est pas prendre les gens en otage, c'est pour que ces jeux se déroulent bien. Il n'y a rien de choquant à ce que les conditions de travail soient améliorées. Il n'y a rien de choquant à ce que le travail soit revalorisé. Ce n'est pas parce que c'est un tous les 100 ans qu'on doit laisser des personnels qui, de toutes les façons, sont déjà en situation de tension, même en dehors des Jeux Olympiques. Il ne me paraît pas scandaleux, ni choquant, ni petit, de faire en sorte.
Donc les agents territoriaux de la mairie de Paris qui travaillent 32 heures par semaine, ils sont en tension.
Mais qu'ils puissent jouer un rôle.
Non, donc ils sont en tension, là, ils sont sous tension, ceux-là.
Mais les conditions de travail, globalement.
Mais réponds-moi, Frédéric.
Les conditions, globalement, des travailleurs, que ce soit en mairie ou ailleurs, ne sont pas bonnes.
Donc les agents fonctionnaires de la mairie de Paris à 32 heures par semaine.
Attends.
Je veux une réponse claire et nette. Les agents de la mairie de Paris 2024 où 80% des
tu
Jeux Olympiques vont avoir
heures, 25
80%
heures,
des Jeux Olympiques vont avoir lieu à Paris. Donc je te pose une question, Frédéric. Les agents à 32 heures par semaine sont sous tension. Avec un 13e mois, avec des avantages sociaux, avec du 1% patronal. Est-ce qu'ils sont sous tension?
Je réponds.
Oui ou non? C'est tout ce que je te demande.
Laisse-le répondre au lieu de toujours être dans l'invective
Dans l'invective, je suis pas dans l'invective.
Si tu poses ta question 4 fois et tu nous engueules.
Alors réponds-moi.
Voilà. Ben voilà, on te répond.
Alors on répond sans être invective, je suis d'accord avec toi. tu peux travailler 32 heures, tu peux travailler 35 ou 39 heures, les conditions de travail peuvent être améliorées, un, et deuxièmement, les salaires qu'ils gagnent, c'est pas non plus des salaires extraordinaires. Quand on t'écoute, on a l'impression qu'ils sont avec des revenus.
Je n'ai pas dit ça.
Et ce qu'on réclame, c'est de meilleures conditions de travail, et ce qu'on réclame, c'est de meilleures révalorisations, et ça ne me paraît pas
choquant. Pourquoi est-ce qu'ils ne quittent pas la fonction publique? Si les conditions dans la fonction publique sont si terribles, si à la mairie de Paris, c'est si détestable,
on recrute tellement, il y a tellement de gens qui se précipitent.
Pourquoi est-ce qu'on ne démissionne pas de la fonction publique? Pourquoi est-ce qu'on ne s'en va pas? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une reconversion? Pourquoi est-ce qu'on ne cherche pas un travail ailleurs?
Mais parce que, tu vois, je pense deux choses. Pour certains, ils sont attachés à leur métier, au service public. Et deux, la reconversion, tu le sais aussi bien que moi. Okay. Malheureusement, dans notre pays, il y a un problème de formation. Ouais. Et passer d'un métier à un autre, c'est extrêmement compliqué.
Il y a beaucoup de gens qui le font au quotidien. Il y a des milliers de personnes qui sont en reconversion.
Moi, je connais des milliers.
Ça peut se solder aussi par un échec. Je peux te dire des profs.
Je parle des profs, je parle de ce que je connais. Des profs qui ont essayé des reconversions professionnelles, je peux t'en sortir des histoires, des dizaines et des quinzaines. D'accord? C'est extrêmement difficile.
Mais bien sûr.
Surtout quand on a des discipline littéraire, etc.
Toute reconversion est compliquée.
Non, c'est parce que nous, on n'a aucun accompagnement. Et je vais te dire, en ce moment, je connais quelqu'un qui est en voie d'être licencié d'une grande entreprise privée, etc. L'accompagnement à la reconversion, l'accompagnement du salarié dans sa façon de rebondir, etc. C'est incroyable. J'en reviens même pas de l'aide qu'il reçoit.
Autre exemple, tu sais, quand on a un plan social ici, il y a plein de gens qui étaient journalistes, qui ne savaient pas faire grand chose d'autre, mais qui ont fait des plans de reconversion, et je l'ai vu,
J'ai fait un plan de reconversion d'abord.
Que tu l'as tenté.
J'ai fait un plan de reconversion en interne à l'éducation nationale, puisque je suis devenue enseignante spécialisée pour m'occuper des élèves en situation de handicap. L'éducation nationale, sur la question du handicap, c'est encore pire que pour tout le reste. Donc j'en suis revenue. Je me suis dit non, c'est encore pire. Je me sens encore plus inutile qu'avant. Je vais encore essayer autre chose. Donc c'est pas à faute d'avoir essayé. Maintenant, moi, je dis juste une chose. L'accompagnement de quelqu'un du secteur privé et l'accompagnement de quelqu'un à la fonction publique, je peux vous dire, ça n'a rien à voir. Alors la reconversion, croyez bien, le privé et le public, c'est pas pareil. Maintenant, on revient sur notre sujet. Mmh. Merci à FO, puisque nous avions Monsieur Vallet tout à l'heure. Sans la mobilisation de FO à la fin de l'année 2023, qui s'est poursuivie début janvier, Monsieur Darmanin n'aurait sans doute pas accordé à tous les policiers, à tous les agents, les 1 000 euros de plus de leur salaire et les 1 900 euros pour ceux qui seront en site olympique. Aujourd'hui, on n'entend plus les policiers. Mais croyez bien que si Monsieur Darmanin n'avait pas cédé à la demande des syndicats, vous auriez les policiers dans la rue. Vigipirate ou pas Vigipirate.
Mais pourquoi?
Donc, le syndicat FO à ce moment-là, tout le monde est d'accord pour dire, mais oui, il faut payer les policiers plus, ils n'ont pas le droit de prendre de vacances. Ben voilà. Ils vont être partout. Ben, excusez-moi, il y a des agents publics aujourd'hui.
On leur avait demandé de renoncer à leurs vacances.
Oui, mais il y a des agents publics.
Mobilisés parfois 7 jours sur 7.
Oui, mais il y a des agents publics aujourd'hui à qui on impose leur congé, à qui on va donner du travail supplémentaire pour lesquels ils ne sont pas rémunérés. Donc je suis navrée, je ne vois pas pourquoi. On félicite le syndicat FO d'avoir obtenu quelque chose de M. Darmanin.
Ils ont négocié.
Et quand la CGT ou FO
Barbara, d'accord.
Moi, je suis désolée.
Mais ça, à ce moment-là, tu négocies, tu fais pas 5 mois de préavis de grève.
Mais parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient par négociation. Monsieur Darmanin, il a voulu céder tout de suite aux policiers, il leur a donné ce qu'ils voulaient. Les autres, on a beau négocier, ils ne veulent pas donner ce qu'ils doivent donner. Eh bien, ils utilisent ce qu'ils peuvent comme levier. Et crois-moi,
il n'y a que le rapport de force.
Si FO Police n'avait pas obtenu ce qu'ils voulaient, ils auraient utilisé beaucoup de leviers, les flics, pour obtenir ce qu'ils veulent. Donc moi, je suis désolée. D'ailleurs, je suis sûre que les policiers, ils sont solidaires du reste des agents de la fonction publique, parce qu'eux, ils obtiennent des choses parce qu'ils ont énormément de leviers vis-à-vis de M. Darmanin. Peut-être qu'effectivement, le CGTiste ou le gars FO de telle collectivité ou de telle mairie,
tu vois bien que ça va au-delà, tu vois bien que c'est
sur
plus...
Sur le principe, moi, je suis d'accord.
Les policiers qui ont obtenu 1 900 euros, ils ont obtenu 1 900 euros par rapport à la tâche qui va être la leur, qui va être démultipliée, qui va être accentuée pendant les Jeux Olympiques. Alain. Sauf que là, tu vois bien que ça va au-delà des Jeux Olympiques.
D'accord,
ce que
mais là,
demande
t'as pas les syndicats enseignants, par exemple. Et on n'est pas hypocrite, Alain, on ne va pas demander pendant nos vacances d'avoir des...
Ça va bien au-delà, Barbara. C'est plus un mouvement politique qu'autre chose, contre la politique budgétaire, les fonctions publiques.
En plus, avec les annonces que vient de faire Guérini, c'est bien fait pour eux.
C'est bien ce que
je
dis, ça va au-delà des Jeux Olympiques.
Ils nous cherchent en même temps.
D'ici 15 jours à 20 jours, tu vas vas avoir quoi? Tu vas avoir la SNCF, tu vas avoir la RATP, tu vas avoir Air France, tu vas avoir les aiguilleurs du ciel, tu vas avoir les contrôleurs du train, tu vas tout avoir parce que c'est la période, c'est la meilleure période pour mettre le couteau sous la gorge au gouvernement.
C'est on pas mettre sous la gorge. C'est pas le couteau sous la gorge.
Le couteau sous la gorge.
C'est obtenir des choses qui sont légitimes, c'est tout.
M-2 des Jeux Olympiques, ils peuvent pas faire marcher arrière.
C'est normal.
Tu vas avoir tout le monde qui va essayer de prendre sa part du gâteau et de gratter des acquis.
Tu utilises les leviers que tu peux au bon moment, c'est ça la stratégie et le contexte.
C'est le rapport de force. Sinon ça marche pas.
Alors si on vous écoute, les bons moments c'est départ de vacances de Noël, départ de vacances de février, départ de vacances de Pâques, départ de vacances scolaires en août, les Jeux Olympiques, l'Euro.
Ah oui, tu veux que les profs fassent grève pendant les vacances scolaires aussi peut-être.
Tout. C'est tout le temps. En fait, vous avez à chaque fois, c'est le moment. À chaque
fois, dans un instant.
Mais non, c'est le bon moment.
Mais alors, tu seras content bientôt, tu pourras licencier. 5
mois de préavis de grève. Je suis pas fonctionnaire. Force ouvrière et la CGT dans la fonction
publique.
Tu seras
chef des fonctionnaires.
Est-ce que c'est normal, c'est du rapport de force, ou est-ce que c'est scandaleux, comme le dit Mehdi? Vous êtes plutôt dans le camp de Barbara et de Frédéric, Barbara Lefebvre et Frédéric Farou, dans le camp de Mehdi Guézard. Eh bien, on saura ça dans un instant et on vous donnera la parole au 32-16. J'ai vu Mickaël, responsable d'opération ferroviaire. Il nous appelle de l'Oise. Est déjà avec nous.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules en direct avec aujourd'hui Mehdi Guézard, patron de PME, et nos deux enseignants, Frédéric Farah, professeur d'économie, et Barbara Lefebvre, qui est professeur d'histoire-géographie. On discute, on débat dans les GG, dans les grandes gueules.
Elle n'est pas que professeure de géographie.
Non, elle est aussi inspectrice de police.
Inspectrice de police.
Préavis de grève de la CGT Fonction Publique pendant les JO. 5 mois, le préavis de grève, il court à partir de maintenant, de mi-avril jusqu'à mi-septembre, le temps de mettre la pression sur le gouvernement, ce qui concerne les emplois publics, la pérennité, les salaires, les primes. Alors, est-ce que vous trouvez ça normal ou scandaleux? C'est normal pour Frédéric et pour Barbara, c'est scandaleux pour Mehdi. Je vais donner la parole à Mickaël et à Sandrine dans un instant. On va voir ce que vous en pensez. Alors, est-ce que c'est scandaleux ou pas? Oui ou non? On y va. On regarde. C'est 56%. Vous trouvez que c'est scandaleux à 56% contre 44%. Mais
ce serait une défaite honorable.
Oui. Franchement, je pensais que j'allais perdre.
C'est Mehdi.
C'est vraiment que j'allais perdre.
Mais non, le fonctionnaire bashing marche tellement.
Parce que je comprends le.
Oh, le patronat bashing aussi.
Je comprends le raisonnement Mehdi. C'est aujourd'hui, il y a une telle détestation aussi du gouvernement, voilà, et du mépris du gouvernement d'Emmanuel Macron, de Gabriel Attal et de Stanislas Guérini, qu'il pouvait y avoir une petite fronde comme ça, tu vois, anti-pouvoir, anti-gouvernement.
Mais ce gouvernement.
Par contre, c'est pour ça que je suis d'accord.
Mais ça peut faire un petit 50%.
Ça, je suis d'accord que ce gouvernement cherche constamment. Mais c'est impressionnant. Hein. Ce gouvernement cherche constamment l'affrontement.
Oui, mais
c'est impressionnant.
Il pue le mépris, ce gouvernement.
Non, mais c'est impressionnant.
Vois, ça peut vous jouer. Il pue le mépris de classe.
Il pue le mépris de classe. Il prend les gens de haut.
L'un des rares avantages.
Il est insupportable, ce gouvernement.
Bah ça, depuis 2017, hein, c'est pas
d'aujourd'hui. Mickaël est avec nous. Mickaël, bonjour.
Bonjour.
Alors, Frédéric vient de dire, il pue le mépris de classe, ce gouvernement.
Ah, bah, carrément.
Ah, bah, voilà. Bah, vous reprenez l'expression à votre compte aussi. Alors, bonjour, Mickaël. Expliquez.
Bonjour à tout le monde. Alors déjà, la première chose, j'aimerais bien un petit peu de décence, s'il vous plaît. Il y a des gens qui sont pris en otage. Il y a des gens qui ont des couteaux sous la gorge. Donc merci de pas faire des comparaisons pareilles. Les otages, c'est quelque chose. Trouvez d'autres termes. Pris en otage, couteau sous la gorge, s'il vous plaît. C'est vraiment, ça me fend le cœur, moi.
D'accord.
Ça me fend le cœur. Voilà. Après, le but d'un travail de grève, c'est quoi? Bah, c'est déclencher une discussion. Ça suffit. Le patronat, enfin, le patronat, entre guillemets, la direction, refuse toute discussion.
C'est vous quoi, êtes quel syndicat, Mickaël?
Je suis pas syndicalisé, je suis d'accord. Dans une entreprise privée.
En plus? Donc, d'accord.
Bah oui, en plus. Mais la direction refuse tout le temps la discussion.
Attendez, vous dites, Mickaël, je suis dans une entreprise privée. Quelle est-elle, l'entreprise privée?
Cargo Beamer, c'est une entreprise allemande. On fait du fret ferroviaire.
Ah, d'accord, voilà. Vous êtes dans le fret ferroviaire, donc vous êtes lié aussi au chemin de fer, d'accord.
Je connais bien le chemin de fer, je travaille avec
SNCF. Et en quoi ça vous concerne?
Ça ne me concerne pas, mais par solidarité, moi, il aimerait bien.
Moi, ça ne me concerne pas, mais tous les jours, je vous écoute, et tous les jours, il y a du classe moyenne bashing, en fait.
D'accord.
Il y a du classe moyenne bashing. Les gens en ont assez d'être pressés comme des citrons. On arrive déjà à peine à s'en sortir. Là, heures supplémentaires imposées. Depuis quand? Depuis quand on n'est pas en Chine ici? Pas encore. Voilà. Bon, après...
Donc c'est le rapport de force. On établit le rapport de force avec les préavis de grève. Okay.
Quelle est l'autre solution? La seule autre solution que le rapport de force, c'est de demander gentiment. Demander gentiment, c'est fait tous les jours. Tous les jours, sans aucune exception. J'ai été syndicaliste pendant 10 ans. Tous les jours, j'ai demandé. Tous les jours. Et tous les jours, ce sont des refus. Donc, à un moment, c'est le rapport de force. Je suis vraiment navré.
C'est pour ça que je rejoins Michael. La question.
À la fin de la discussion, grève ou pas grève, ça, c'est autre chose. C'est un autre débat. Mais le but d'un préavis de grève, c'est déclencher une discussion. C'est de dire, voilà, il n'y a pas le choix. Si vous ne voulez pas discuter avec nous, alors on se mettra en grève.
Donc, Michael a raison. 5 mois de préavis de grève, c'est normal.
Non, mais Michael a raison sur un point. On passe notre temps.
Vous savez que sur SNCF Réseau, il y a des préavis de grève sur un an.
Et donc,
SNCF Réseau discute avec ses employés.
Vous avez pris le meilleur exemple, SNCF. Hein, vous avez vraiment pris la palme d'or champion du monde de la grève, la SNCF. Ça, je suis d'accord avec
vous. Michael a raison sur un point.
Si vous connaissez pas le fret, ne parlez pas du fret.
Non, mais je parle. Monsieur, on a parlé de la SNCF. La seule entreprise qui, depuis 1900, depuis l'après-guerre, monsieur, n'a jamais passé une année sans faire de grève. Donc, excusez-moi. C'est des faits réels.
Non, mais je vous explique les grèves parce que vous ne savez pas. Les grèves chez SNCF Réseau, les employés qui vont faire grève doivent déposer une D2I, une demande d'intention, une déclaration d'intention, 48 heures avant. Ce qui fait que la SNCF Réseau a le temps de trouver des remplaçants. En Allemagne, par exemple, quand il y a un préavis de grève, quand un syndicat, des GDL par exemple, les conducteurs, se mettent en grève, ils se mettent en grève au moment où ils commencent leur service. Le gars commence son service à 8h, à 8h moins 1, il dit « Ah, bonjour, je suis en grève ». Voilà. Et là, il n'y a aucun moyen pour l'infrastructure allemande de se retourner. Donc SNCF Réseau est très très bien organisé au niveau des grèves. Je le vois régulièrement.
Alors Michael, vous dites aujourd'hui il y en a assez de taper sur les classes moyennes.
Mais...
Et vous dites qu'en fait la fonction publique, tous ceux qui se rebellent un peu aujourd'hui, qui demandent à être augmentés, c'est ceux qui sont... pressurés et ceux qui ne gagnent pas suffisamment leur vie, c'est ce que dit Michael.
Michael pointe quelque chose d'important. On passe notre temps à entendre le modèle scandinave, ces pays où il y a tellement de concertations, où on arrive à obtenir le consensus. Mais en France, pourquoi on n'arrive pas à obtenir le consensus? Parce que peut-être qu'il y a deux partis qui sont antagonistes, d'accord, mais ça c'est le principe même de la lutte sociale, voilà, bon ça c'est la base. Mais on a aussi un patronat. Et je ne parle pas des TPE-PME, donc que Médine ne se sente pas concerné. Le TPE-PME, de toute façon, il n'a pas de syndicat dans son entreprise. Donc, il est souvent obligé de négocier parce qu'il n'a pas... Et puis que son intérêt, c'est de travailler en harmonie avec ses employés. Et il n'a pas... Mais dès qu'on arrive dans des entreprises où il y a des syndicats, les grosses entreprises et la fonction publique, c'est aussi la direction qui instaure le rapport de force. Ce n'est pas toujours le syndicat qui instaure le rapport de force. Donc, ils sont tous là à admirer les pays scandinaves, mais qu'eux-mêmes, en tant que patron, en tant que direction, ils aient une mentalité de discussion et de consensus. Mais eux-mêmes ne l'ont pas. Donc c'est facile après de faire de la détestation de syndicats quand eux-mêmes n'ont pas la capacité à faire de la concertation. Et je vais te dire, même un gouvernement ne l'a pas. Quand tu vois que M. Guérini, il invite les syndicats autour de la table, il ne leur parle pas d'un sujet, et ensuite le sujet le plus épineux, il en parle à la radio, comment tu veux qu'après les syndicats ne lui claquent pas la porte au nez
pour arrêter de se foutre du monde? Si tu as écouté les grandes gueules hier, on a dit ce qu'on pensait à M. Guérini sur la méthode. Frédéric Farah, et puis ensuite, merci Michael d'avoir été dans le jeu. On écoute Sandrine qui nous appelle du Var. Vas-y Fred.
Et là, c'est ce que vient de dire Barbara. On vit dans une société où on a un gouvernement pour qui, effectivement, la démocratie sociale, c'est pas vraiment sa préoccupation. On a vu que ça soit dans l'assurance chômage, l'assurance maladie, une réétatisation massive de tout ça, où les partenaires sociaux sont souvent foulés. Donc, je comprends qu'à un moment donné, on a un corps social qui n'en peut plus et qui a besoin d'utiliser un... Regardez, les gens sont descendus dans la rue pour les retraites, poliment, gentiment, pendant des mois. L'ensemble des Français étaient contre cette réforme. Le gouvernement leur a marché dessus. Il n'y a que le rapport de force. Le reste, si c'est juste pour descendre, on n'est pas content, Macron t'es foutu, on est dans la rue, mais ça marche pas ça. Ça marche pas. Si on bloque pas, ça marche pas. C'est tout. Les agriculteurs, pourquoi ils sont entendus? Parce qu'ils ont expliqué qu'ils allaient bloquer.
On peut faire une différence aussi entre les agriculteurs et la bien fonction
sûr.
Publique.
Non mais je sais.
Au niveau du vécu, des revenus et de
des avantages.
Et c'est sûr que dans la fonction publique, nous on est grassement payés.
Non, il n'est pas question d'être grassement payé. Et la catégorie C, on est les premiers ici dans les GG à entendre qu'il y a la plus petite des catégories. raconter oui, comment il galère avec un point d'indice qui a été largement et longuement gelé.
Bac plus 6 en moyenne, 25 ans de carrière, on finit à 2004.
Il y a beaucoup d'agriculteurs qui aimeraient avoir les revenus aussi de fonctionnaires, de la fonction publique aussi aujourd'hui, avec la garantie de l'emploi aussi.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Simplement, ce que je veux dire, c'est que c'est la modalité. C'est que le rapport de force qui veut marcher. Les agriculteurs sont dans des situations extrêmement difficiles. Il ne s'agit pas de les minorer. Ils ont pu se faire entendre parce qu'il y a un rapport de force. Sinon, ça ne marche pas.
Ouais.
Sandrine, bonjour.
Voilà. Oui, bonjour.
Sandrine, alors, vous êtes plutôt dans le camp de Mehdi ou dans le camp de nos deux profs, Frédéric et Barbara?
Ah non, dans le camp de Mehdi.
Pourquoi? Ah, expliquez-nous.
Merci, Sandrine.
Bonjour.
Bonjour, alors, Sandrine.
Je trouve que, déjà, sans rentrer dans le détail de... Aujourd'hui, on parle d'un événement qui est primordial, qui est important, qui rayonne à l'international. On parle des JO. Et clairement, il y a des gens qui profitent du fait qu'aujourd'hui, ça se passe déjà très mal dans le pays au niveau de cette organisation-là, pour en plus rajouter des embûches. Je pense que de manière plus patriote, plus générale, on pourrait se dire que c'est peut-être bien de pas trop passer pour des abrutis à travers le monde en mettant en plus du chaos dans un truc qui est déjà pas très bien organisé. Vous voyez mon point de vue ?
Oui, je suis d'accord.
Et je rentre pas dans la bataille je comprends, chacun se bat pour son bistec, chacun négocie.
Ça, c'est logique, ça. Vous avez raison sur ça.
Mais je pense
que c'est la méthode.
C'est ça, c'est la méthode, c'est qu'à un moment donné, les revendications, on peut les entendre. Donc, bien que moi, j'ai quelques opinions par rapport, effectivement, aux fonctionnaires. Je ne dis pas que tous soient des fainéants, mais je pense que les premiers qui mettent à mal, l'image des fonctionnaires, ce sont certains fonctionnaires qui font tout pour entrer dans cette caricature.
Lesquels ? Lesquels, par exemple ?
Par exemple, hier, j'ai écouté l'émission où une dame qui disait qu'ils étaient vite dans un bureau et trois à bosser. Voilà, c'est ce genre de choses. Moi, j'ai mon meilleur ami, il travaille à la SNCF depuis 15 ans. Il vient lui, à la base, il était militaire. Donc, vous savez, les militaires n'ont pas le droit du tout de faire grève, c'est interdit. Il a été ensuite dans des
secteurs. Ça a dû le changer, oui.
Comment ?
Non, je dis, ça a dû le changer, effectivement.
Ah oui, alors non, parce que lui, en fait, lui, clairement, il me dit, ça fait 12 ans que je suis là, j'entends mes collègues, je trouve ça absurde. J'ai des meilleures conditions que je n'ai jamais eues toute ma vie. Il a travaillé après dans le privé. Il me dit qu'il n'a jamais fait de grève, pas une seule en 12 ans.
Mais je suis d'accord avec vous, Sandrine. Moi-même, je suis d'accord avec à chaque fois les mouvements de grève, mais je ne fais jamais grève. Parce que, juste, voilà, je sais à quel point, de toute façon, nos mobilisations en tant que prof ne seront pas entendues. Donc, je ne fais pas grève. Je suis de tout cœur avec mes collègues, mais je suis quand même devant mes élèves. Mais ce n'est pas parce que je ne fais pas grève que je ne suis pas d'accord avec les mouvements de grève, voyez-vous ?
Non, mais je comprends. Mais il y a une partie qui est il y a une revendication, par exemple, pour les professeurs. Je comprends une bonne partie de vos revendications.
Mais pourtant, je ne fais pas grève.
Oui, mais ça, vous le faites bien, parce qu'on ne va pas se mentir. Si les profs commencent à sauter les jours d'école, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup en France, on va se dire les choses clairement. Si en plus les profs ne viennent pas, je pense qu'ils mettent à mal, non pas l'État, mais ils mettent à mal les étudiants.
Oui, vous savez, des fois, les élèves se mettent à mal eux-mêmes.
Hein. Sandrine,
ils viennent à travailler, c'est pas mieux non plus.
Hein. Sandrine, on va rester avec nous, Sandrine, pour écouter Franck, qui nous appelle de la Drôme. Bonjour, Franck.
Oui, bonjour à tous.
Bienvenue. Préavis de grève, 5 mois. Vous êtes postier, c'est ça ?
Oui.
Alors, est-ce que c'est scandaleux ou pas ?
C'est pas scandaleux du tout. Je pense que, avant de présenter les choses comme en disant, regardez, c'est insupportable, un préavis de 5 mois, je pense qu'il faut rappeler un petit peu ce qu'est la négociation ou ce qu'elle n'est pas, justement. La négociation pour négocier, et je suis donc postier, mais je suis aussi syndicaliste et je pratique la négociation. Souvent, en face on a une direction, alors que ce soit la Poste, mais aussi on a la SNCF, puisque je partage en interprofessionnel avec mes camarades des autres secteurs d'activité, on a une direction qui est fermée à tout. Qui est fermée à toute augmentation de salaire. Énormément de choses. Et ça, c'est pas assez. Donc, si vous voulez, la négociation, elle est déjà entamée depuis des mois. Et quand on a en face de nous, le plus souvent,
Ça vous a pas échappé que c'est de l'argent public aussi et qu'il y a quelques difficultés en ce moment aussi, Franck.
Il y a de l'argent public, évidemment. Alors, tout ce qui est de la Poste, figurez-vous que c'est pas de l'argent public parce que la Poste est une société
anonyme
entière. jamais, ça n'est jamais été l'impôt qui a financé les postiers. On va pas refaire l'histoire. Bon, ça, je ferme la parenthèse. Donc voilà, il faut être deux pour faire une négociation. Souvent, on a en face des directions, encore une fois, qui ne veulent pas négocier, qui méprisent d'ailleurs le dialogue social par les déclarations qu'ils font à l'image de certains ministres, à l'image de certains comportements de députés ou de sénateurs. Et après, on s'étonne que le dernier recours que l'on ait quand on doit établir un rapport de force, ce soit la grève.
Donc, d'accord. Donc Franck, si jamais vous n'obtenez pas, il faudra envisager que les Jeux Olympiques se passent pas pour le mieux du monde, que ça se passe pas bien.
Alors après, dans le rapport de force, si vous voulez une grève, quand on fait une grève, si elle ne gêne pas, elle a aucun intérêt, la grève.
Ben, on est mille fois d'accord.
Si vous voulez. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que les organisations syndicales, alors, on peut être d'accord, pas d'accord, mais en tous les cas, pour que ça puisse peser, ben, il faut gêner. Et pour que ça puisse gêner, on dépose des préavis de grève sur des périodes comme par exemple les vacances, comme par exemple les Jeux Olympiques, parce que c'est à ces moments-là, malheureusement, parce que la négociation n'a pas pu obtenir depuis des mois, qu'on peut peut-être essayer d'obtenir des choses par un rapport de force. On est dans un
d'accord.
pays... Permettez-moi, je termine juste.
Je vous en prie.
Dans une culture du conflit et non pas une culture de la négociation, une culture comme on peut l'avoir dans certains pays effectivement de l'Europe du Nord où d'abord beaucoup de salariés sont syndiqués, donc il y a un rapport de force qui
est créé
naturellement dans la négociation. Les syndicats pèsent un petit peu plus qu'ils ne pèsent en France par rapport au nombre de syndiqués. Et voilà, tout ceci explique cela. Je termine juste en disant une chose. Si vous permettez. Je pense que parler de prise d'otage est honteux. Parce que votre collègue qui a parlé de prise d'otage, je voudrais savoir si, quand il y a des grèves, sa vie a été mise en danger.
Monsieur, s'il vous plaît, il faut pas monter sur ces grands chevaux. C'est une expression et on a mis des guillemets. Donc voilà, et on en a même ri avec Barbara. Donc s'il vous plaît, on va pas refaire.
Non, j'en ai pas ri.
D'accord, on va pas refaire l'histoire. On va pas refaire l'histoire, d'accord.
Et, fini.
Et je dis ce que je pense et je pense que je dis. Et pour moi, vous prenez en otage entre guillemets. Des gens qui n'ont pas à subir à chaque fois les aléas.
Alors, c'est
de
fini.
Vos revendications. C'est tout.
Près 5 mois de préavis de grève CGT Force Ouvrière.
On va en parler.
Est-ce que c'est scandaleux, oui ou non? Tout à l'heure, on était à 56-44. Hein, 56% de oui, c'est scandaleux. On va voir. Est-ce que vous avez réussi à vous rapprocher? 57-43, vous avez perdu un point, c'est Médic qui a gagné.
Merci
à Franck.
C'est pas grave, 43, c'est quand même un beau chiffre.
C'est un beau chiffre.